l'autre. Et je pense que ces élections, ce sont des élections de mi-mandat. C'est-à-dire que le parti politique qui sortira en tête de ces élections européennes sera chargé de préparer l'alternance. Et c'est la raison pour laquelle moi je ne cesse de dire aux Français, je ne cesserai de leur dire d'ici au 9 juin,
c'est Jazz Libre sur Radio Libertaire 89.4, votre radio préférée, votre émission préférée. Yves au micro, Laurent à la technique, numéro du studio 01 43 71 89 40. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter l'émission pendant 12 mois à partir de la fin de la diffusion. Vous allez sur le site de la radio, radiolibertaire.net, je crois, ou org, je ne sais plus. Enfin, vous faites Radio Libertaire, vous allez trouver. Vous avez l'agenda rempli, complet, de l'ensemble des émissions. Les podcasts que vous pouvez soit écouter, soit télécharger. On m'a encore posé la question récemment en me disant « mais oui, je les écoute, mais... » Et je dis « mais non, vous pouvez les télécharger et donc les mettre dans votre discothèque personnelle. » Vous pouvez également, et vous devez même également, nous soutenir parce que nous avons besoin de votre argent pour maintenir la radio, les émissions, le matériel, etc., etc. Vous pouvez également consulter ma page Facebook Yves Jazz Libre sur laquelle je mets, comme toujours, les pochettes des albums, la liste des morceaux que nous avons diffusés. Et si vous avez besoin d'un peu plus d'informations également, vous pouvez m'envoyer un mail à dk51@sfr.fr. Je vous rappelle également que nous diffusons aussi en DAB+, c'est la nouvelle norme de numérique qui n'a pas de rapport avec la TNT, mais c'est le même genre de choses, à condition bien entendu d'être équipé de matériel adéquat. Vous avez également sans doute noté qu'il y a une autre émission qui s'appelle Gabriel, Maurice, Claude et les autres, alias GMC+, qui, elle, est le deuxième jeudi du mois de 20h30 à 22h, ce qui fait que nous avons rendez-vous ensemble trois fois par mois avec toutes ces musiques diverses et variées. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Alors, ce soir, une émission avec deux volets. Le premier, quelques nouveautés. J'en ai d'autres pour la prochaine fois, ne vous inquiétez pas, ça ne manque pas. Et il va en pleuvoir comme pas possible. Et la deuxième partie sera consacrée au centenaire de la chanteuse de jazz Sarah Vaughan, bien qu'elle se défendait à la fin de sa carrière de ne pas être une chanteuse exclusivement de jazz. Mais bon, nous y reviendrons. Alors, la dernière fois, nous avions passé un tout petit extrait du dernier album de Monty Alexander, qui s'appelle D-Day, donc le jour J, qui est évidemment lié au débarquement. Alors, pourquoi ça? Alors, pardon, excusez-moi, je recommence. Donc, la sortie de l'album était le 29 mars et je ne sais pas quand il y aura le concert, mais je sais qu'il va y en avoir un. Donc, éventuellement, je vous le dirai ou je le mettrai sur ma page à l'occasion. Donc, pourquoi D-Day? Eh bien, en réalité, parce que Monty Alexander est né le 6 juin 1944. Et donc, alors, on en a parlé récemment de Monty Alexander, puisqu'il avait fait un disque en duo avec mon ami professeur de piano, Michel Sardabi, qui nous a quittés récemment. J'avais fait une spéciale sur Michel. Et donc, Monty Alexander avait fait ça. Monty Alexander, d'un point de vue pianistique, c'est un héritier vraiment d'Oscar Peterson. On peut dire qu'il a cette espèce de facon, de virtuosité. Et en même temps, il y a très très longtemps, dans les débuts de Jazz Lee, pour ceux qui s'en souviennent, j'avais passé un certain nombre de thématiques et notamment est-ce que les Beatles se sont solus dans le jazz ou le jazz dans le... Et il y avait, j'avais je pense fait un volet sur Monty Alexander qui avait retrouvé ses racines reggae, parce qu'il est jamaïcain, dans le jazz, voilà. Donc j'avais passé ces musiques et donc voilà, il a aussi entre-temps un petit peu changé d'approche. Alors bon, Monty Alexander, c'est presque un monstre sacré. Il est arrivé aux États-Unis à 17 ans et il a subjugué ou séduit Frank Sinatra, qui en fait va lui faciliter un peu les choses. C'est sûr que quand on a un type comme Frank Sinatra par qui on est adoubé, c'est un peu plus facile. Et donc il va accompagner des musiciens comme Milt Jackson, Dizzy Gillespie, Johnny Griffin, Benny Golson, et voilà. Et donc c'est quand je vous disais qu'il était le dossier de presse dit qu'il était influencé par Earline, Errol Garner, Ahmad Jamal, Wynton Kelly. Bon voilà, c'est tous ces pianistes de cette génération des années 40, hein, tous ces boppers. Voilà, donc il va enregistrer pas mal de disques. Il a beaucoup de discographie. Et cet album, donc D-Day, qui est sorti le 29 mars dernier, a été enregistré en France et il y est accompagné par Luke Selick à la contrebasse et Jason Brown à la batterie. Et alors, ce qui est intéressant dans cet album, c'est que je trouve que là, Monty a a un peu, non pas freiné son ardeur en termes de virtuosité, mais va un petit peu plus à l'os que d'habitude. C'est une chose que j'ai remarqué, et on le verra également dans l'émission GMC+, c'est que vers la fin de la vie des musiciens, j'ai souvent le sentiment que ils ont conscience de plus en avoir pour très longtemps et ils vont à l'os. Il y a une sorte d'épure ou d'urgence. Et je pense notamment au dernier pluriel concert de Stan Getz lorsqu'il était avec son pianiste où il a fait des duos. Je pense à Bill Evans, mais notamment les dernières œuvres de Gabriel Fauré ont pour moi aussi cette espèce une sorte de d'universalisme du discours musical. C'est très très intéressant. Et donc voilà, je dis pas que Monty Alexander est sur la fin de sa vie, mais je pense qu'en vieillissant un peu, eh bien voilà, il a un peu été un peu plus tranquille, un peu plus au cœur de la musique. Alors évidemment, le D-Day nous évoque le débarquement des alliés en Normandie, hein, et donc on va célébrer les 80 ans le 6 juin prochain. Et donc voilà, symboliquement, c'est ce qui un petit peu a été déclencheur dans l'esprit de Monty Alexander. Donc on va écouter un premier thème. Alors il y a une introduction qui est un discours, je ne sais plus de qui, il faut que je regarde, et ensuite enchaîné avec un thème très connu qui s'appelle « I'll Never Smile Again » qui a été écrit en 1939 et dont Frank Sinatra en a fait ses choux gras. Voilà, c'est parti Laurent.
« Until the philosophy » which hold one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. Mr. War.
Jazz Libre, Radio Libertaire. Alors, on retrouve dans ce tempo, chez tous ces musiciens des Antilles, cette pulsion, en plus du swing, pulsion très chaloupée, qui vraiment, qu'on va retrouver chez Rollins, qu'on va retrouver chez Horace Silver, que même Parker a emprunté, justement, ces pulsations rythmiques. Parker a été très nouvelle, justement, parce qu'on était beaucoup moins dans le binaire. Et ce côté chaloupé, lui vient évidemment des musiques qu'il va écouter. Dès 16 ans, il est complètement imprégné de cha-cha, de merengue, de calypso. Hein, le calypso, bon, évidemment, qui est toutes les musiques de danse. Alors, il dit que c'était des musiques qui avaient une pulsation, et selon votre façon, votre approche de cette pulse, le rythme devenait féroce. Et les gens voulaient danser, taper dans leurs mains. La musique surgissait de partout avec cet accent unique, ce rythme jamaïcain identifiable, jusque dans la façon de parler, de marcher et de conduire. Voilà. Donc c'est complètement, ça transpire. Et c'est vrai que là, il y a, dans ce qu'on vient d'écouter, il y a quelque chose de très Ahmad Jamal aussi, qui lui est complètement aussi inspiré de ce genre de choses. Alors on continue par écouter un autre titre qui est un petit peu plus explicite dans les titres, c'est Agression et The Serpent. Voilà, c'est parti.
Oh, tu me quittes pour 7 ans, c'est bien long. Thank you.
Jazz Libre, Radio Libertaire, alors il a produit environ 75 albums sous son nom, et puis il a enregistré beaucoup d'autres albums avec Milt Jackson, avec le guitariste jamaïcain Ernest Ranglin, hein, c'est ça où j'avais passé, avec le contrebassiste Ray Brown, avec le chanteur Tony Bennett, avec Quincy Jones... avec Dizzy, là on l'a dit, avec Jimmy Smith également, avec Barney Kessel, avec la fille de Nat King Cole, Nathalie, avec Clark Terry, le trompettiste, avec Toots Thielemans, les géniales harmonicistes belges, Benny Golson également, voilà, Frank Morgan, le copain de cellule d'Art Pepper. Bucky Pizzarelli, tout ça, bon voilà, Phil Woods, bon, c'est donc plus d'une centaine d'albums à son actif, hein, c'est quand même plutôt pas mal, voilà. La symbolique de cet album, il dit qu'en fait, les compositions qu'il a créées pour l'occasion, en fait, lui ont été inspirées par le conflit de la Deuxième Guerre mondiale, son dénouement particulier, et en fait, il est, il donne tous ses sentiments sur l'héroïsme des combattants, l'espoir d'un nouveau départ, la confiance renouvelée en l'autre, et le sens du sacrifice. Bon, on aimerait que tout ça se vérifie, mais malheureusement, on peut dire que c'est un peu raté, quoi, sur la totalité des 80 ans. Les conflits n'ont toujours pas cessé sur cette planète, et malheureusement, je crains qu'il ne s'en soit encore comme ça pendant longtemps. Donc nous allons écouter un autre titre. Les titres sont a priori sur deux thématiques sur lesquelles il enchaîne. Le titre qui s'appelle Restauration et Renewal. Donc Restauration et Renouveau. Voilà, c'est parti Laurent. Thank you. Jazz Libre, Radio Libertaire. Donc là, on voit, on n'est pas sur une pulse typiquement reggae, mais on sent quand même que c'est que ça tortille un peu du croupion. Hein. Il faut, faut dire les choses tout en gardant cette économie de notes, hein, comme le faisait Ahmad Jamal. Et c'est un peu nouveau, enfin, c'est pas nouveau, mais c'est sûr que sur les la centaine d'albums qu'il a produit. Il y a une certaine façon de jouer plus de notes, plus prolixe, comme Oscar Peterson pouvait l'être. Mais là, je trouve que c'est un disque qui est totalement attachant et très très inspiré. Voilà. Je vous passe pas tout. La dernière fois qu'on en avait passé, j'avais pris le morceau de Charlie Chaplin qui s'appelle Smile, qui était pour le film Les Temps modernes, hein, de 1936. Qui disait « Souriez même si votre cœur est douloureux, souriez même s'il se brise, tenez bon ». Voilà, hein, ça c'était très... je ne ferai pas de digression sur ce texte. Et donc, nous allons écouter un dernier extrait. Alors là, ça a été enregistré en public. Je ne sais pas où, je crois que ça a été enregistré à Paris pour récemment. Et donc là, on est vraiment dans l'esprit reggae, comme il avait fait avec la rythmique de Bob Marley, avec Robbie Shakespeare et je ne sais plus comment s'appelait l'autre, mais où il reprenait des choses assez marrantes, dont notamment le caméléon d'Herbie Hancock, mais il... comme je pense que Robbie Shakespeare, au niveau de la basse, c'était plus facile de la jouer dans la tonalité de la basse, donc ça a été joué en mi, alors que Herbie Hancock, je crois qu'il la jouait en la bémol, il me semble. Voilà. Bon, ceci dit, ça n'a pas grande importance. Ces disques sont tous très très bien, quoi qu'il arrive. Donc on écoute, ça s'appelle Day O, c'est-à-dire le jour du débarquement. C'est parti.
Thank you, merci beaucoup. Merci beaucoup. Deo. C'est ça, Deo. 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 I work all night and I drink a rum. Hey! Mr. Belafonte gave us this song. Mr. Day, answer. Answer this one. Did the light turn, we won't go home. We're gonna go home now, ladies and gentlemen. Thank you very much. It's a pleasure, pleasure. The light turn me won't go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot punch. The light come, man, me want. You're a wonderful audience. Thank you so much, Paris.
Alors, le petit instrument aigrelet qu'il joue au début s'appelle un mélodica. Alors, c'est pas le mélodica qu'on avait à l'école pour les plus anciens d'entre nous, qui était vert et blanc avec des touches, décalées pour. Non, c'est le mélodica qui est quand même plus sympa de chez Yamaha, avec un bec et puis un clavier piano. Donc, voilà, c'est quand même beaucoup plus facile. J'en ai un, d'ailleurs, il faudrait que je m'en serve, peut-être même pour venir ici pour vous donner deux, trois exemples, ça pourrait être rigolo. Donc voilà, on voit hein, que là, il est dans le, non pas dans le reggae, c'est pas tout à fait le reggae, mais c'est le calypso, hein, c'est vraiment des vieilles chansons très connues que ont chanté Harry Belafonte, justement, Laurent me rappelait ça. Et donc, je crois même que c'est une chanson qu'on retrouve dans un film... un peu fantastique qui s'appelait Beetlejuice, il me semble, qui est un film assez rigolo d'ailleurs. Que vous dire d'autre? Je crois que je vous ai déjà tout dit. Et puis lorsque vous avez besoin de, je pourrais vous redonner les coordonnées de mon émission dans laquelle je l'avais passé, et si vous voulez, je vous enverrai un lien, si vous avez envie, de téléchargement avec l'émission au complet. Alors, on continue dans les nouveautés d'un album qui est sorti le 6 mars dernier, donc c'est un petit peu vieux. Non, pas du tout, n'exagérons pas. Il s'agit d'un premier album d'un saxophoniste qui s'appelle Yannick Benoît, le Yannick Benoît Quartet, avec Sylvain Leray au piano, Tom Guillois à la contrebasse et Jean-Baptiste Lout à la batterie, qu'on a déjà entendu la dernière fois et dans d'autres disques, notamment avec le pianiste Julien Leprince Caetano, qui est le fils de Manu Leprince, la chanteuse dont j'avais passé un certain nombre de thèmes. Donc alors, le titre de l'album s'appelle « Le repère ». Alors, évidemment, nous sommes là dans un jeu de mots typiquement lacanien, parce que ça pourrait se traduire par « le repère », puisque en fait, il vient d'être papa, donc la naissance d'un premier disque et la naissance d'un enfant, donc « le repère ». Mais « le repère ». Donc, voilà, c'est un musicien que je ne connaissais pas. Il est normand, il est natif de Bayeux, mais il enseigne au conservatoire du 11e. Il joue évidemment du saxophone ténor, mais il joue aussi du didgeridoo. C'est cet instrument un peu étrange des aborigènes d'Australie. D'ailleurs, je crois que nous en écouterons un extrait. Et donc, je ne vous dis rien, mais vous allez évidemment trouver, je vais vous le dire tout de suite, c'est totalement coltranien. Alors là, vraiment, on est dans le coltranisme le pur et dur. Autant vous dire que ça me botte à 100%, hein, je vais pas faire le difficile. Pour moi, c'est un excellent album. J'aurais bien voulu vous le passer complètement en entier. Mais nous avons d'autres... on est un peu pris par le temps, mais c'est... Mais voilà, éventuellement, on y reviendra. Ou on l'invitera si besoin. Donc, on va commencer par un thème qui s'appelle Rubato, enchaîné tout de suite avec les fils d'Isaac. Alors, Rubato, pour ceux qui ne sont pas musiciens, c'est un thème qui... c'est une expression musicale qui indique une manière de jouer, c'est-à-dire où on s'affranchit du tempo. Voilà, rubato, c'est sans tempo. C'est-à-dire, si vous voulez le jouer, c'est plutôt lent d'ailleurs, hein, plutôt doucement, pas trop vite le matin et doucement l'après-midi. Où on va un peu prendre le temps de s'étirer, de bailler, de faire des choses. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver évidemment chez Coltrane dans ses ballades, où on est un peu dans une sorte de flou rythmique. Je vous dis ça pour décrire, en réalité ça ne l'est pas vraiment, mais je pense notamment aussi au thème d'Ornette Coleman, Lonely Woman, où il n'y a aucune indication de tempo, donc... on peut s'accaparer évidemment la partition d'une certaine manière. C'est un peu ce que fait Étienne Guéraud sur ses vidéos tutoriels de musique, où il décode le real book. Le real book, vous savez, c'est toutes ces partitions qui ont été faites par des anciens élèves de la Berklee School of Music et qui ont transposé tous les thèmes en mettant ces grilles d'accords. Mais c'est pas une bible, hein, c'est juste une indication pour pour jouer quelque chose et après on peut le modifier comme on veut. Donc bon, voilà. Et Les Fils d'Isaac, c'est un jeu de mots pour créer soi-disant une généalogie biblique au saxophone. Voilà, Isaacson, Saxon, Phone, bon. Bref. Voilà, on va écouter vous et vous m'en direz des nouvelles. C'est parti, Laurent. Thank you. Cause Libre, Radio Libertaire. Bon, voilà, hein, je vous fais pas de dessin, mais je trouve ça incroyable de faire une musique comme ça de nos jours où beaucoup de musiciens, de jeunes musiciens, se creusent le carafon pour nous faire des choses très compliquées, du 7-11, du 12-8, du B2 coulé, enfin ce que vous voulez. Mais là, non, on est. Bah, je trouve ça très réjouissant personnellement, hein, voilà. Bon, même si évidemment Coltrane est arrivé il y a longtemps, mais moi ça me fait toujours plaisir d'avoir des musiciens qui s'expriment de cette façon. Et bon, alors oui, c'est juste une chose. Tom Guiloy, le contrebassiste, était un guitariste, mais qui est passé définitivement à la contrebasse. Ça me fait penser. Alors là, je pense que c'est une décision volontaire, mais ça me fait penser au bassiste, contrebassiste Vinnie Burke, qui lui était guitariste et qui a eu un accident il a été amputé d'un doigt, et il est passé à la contrebasse aussi pour des raisons, lui, malheureusement, de fonctionnalité. Mais bon, après, quand on pense à Django Reinhardt, qui jouait avec trois doigts seulement, hein, c'était quand même assez étonnant. Bon, bref, peu importe, ils sont tous excellents. Alors évidemment, le pianiste met aussi ses traces dans les pas de McCoy Tyner, avec évidemment ce jeu très particulier en carte, hein, bon voilà. Et on va continuer avec un autre thème qui s'appelle Future is in the fields, donc le futur est dans les champs. Je ne sais pas, en tout cas, c'est pas une mauvaise idée. Voilà, c'est parti, Laurent. Jazz Libre, Radio Libertaire, 89.4. Alors, j'ai oublié de vous dire une chose à propos du petit morceau tout à l'heure de Monty Alexander en public. Ça a été effectivement enregistré en France parce qu'on voit à chaque fois que lorsque le public français tape dans ses mains, il est évidemment à contre-temps du vrai tempo up, hein, voilà. Donc c'est le truc qui plombe tout musicien. Donc, moi, j'avais toujours peur que quand on joue, les publics tapent dans les mains parce que ça vous fout complètement tout par terre. Il y a une vidéo d'un concert d'Ahmad Jamal à ce propos où il joue la même chose en Allemagne, enfin dans les pays anglo-saxons où tout le monde sait qu'il faut taper sur le deuxième et le quatrième temps et les Français invariablement tapent sur le premier et le troisième. C'est vraiment l'esprit lourdingue, quoi. Donc, les Français n'ont aucun sens du swing. Ils aiment bien, hein, mais ils n'ont pas le sens du tempo. Alors, j'ai une information à vous donner qui est assez désespérante, mais bon, l'être humain étant totalement désespérant, il n'y a aucune raison que ça s'arrange. Bah, celle-ci, elle vaut son pesant de cacahuètes. C'est un article qui est paru dans le Canard Enchaîné, mais ça faisait un moment que j'avais cette information, mais je n'y croyais que modérément, enfin, où ça m'est passé comme ça en me disant, bon, c'est tellement incroyable qu'en réalité, l'esprit humain refuse de ce genre de choses. Et pourtant, c'est la réalité. Donc, c'est paru dans le Canard aujourd'hui, hier, pardon. Le titre, très très bon titre du Canard, hein, j'aurais pu le faire, s'appelle « Une chen chen my heart ». Donc, à propos de la chanson « Une chen my heart », là. Donc voilà, soucieux de ne plus voir sa jeunesse trémousser sur de la musique techno, jugée dégradante, le régime tchétchène de Kadyrov va interdire à partir du 1er juillet toutes les œuvres musicales dont le tempo ne se situe pas entre 80 et 116 battements par minute, BPM, selon CNN. Citant l'agence TASS, sa principale cible, la communauté homosexuelle assimilée à la musique électronique à ses tempos supérieurs, à 120 battements par minute, pardon. Kadyrov semble toutefois avoir omis un détail. En toute logique, l'hymne de la Fédération de Russie serait proscrit puisque sa partition originale indique un tempo de 76 à la noire. Et en conclusion du Canard, la nouvelle devise du dictateur, ni Dieu ni métronome. Voilà, donc oui, c'est désespérant. Hein, voilà, je peux pas vous dire mieux que ça. Je suis effondré devant tant d'ignominie. Donc, on continue encore un dernier morceau sur l'album du Yannick Benoît, dont je vous rappelle le titre Le Repère, ou Le Repère, qui est sorti le 6 mars dernier. Il y a eu des concerts de présentation, donc voilà, c'est raté, mais vous pouvez vous connecter sur la toile. Juste une dernière information. Il a gagné le premier prix du soliste en ténor au trophée du Sunside en 2021. Voilà. Et puis, la pochette a été réalisée par une ancienne saxophoniste, Jennifer Boyd, qui a abandonné le saxo pour se consacrer uniquement au graphisme. Et donc, c'est elle qui a fait la pochette. Voilà. Donc il y a 11 titres. Je vous recommande cet album. Voilà, je n'ai pas d'autre chose. Et donc on va écouter un thème qui s'appelle To GD. Donc je ne sais pas qui est le JD en question, mais ça n'a aucune importance. C'est parti, Laurent. We'll be right back. Jazz Libre Radio Libertaire 89.4. Et donc, nous terminons cette première partie sur ces nouveautés et nous allons maintenant commémorer le centenaire de Sarah Vaughan. Alors, ça s'écrit Vaughan, mais ça se prononce Sarah Vaughan. Alors, musicienne, chanteuse qui a été un tout petit peu oubliée dans ces derniers temps, malheureusement, moi, je le dis de manière tout à fait claire, c'est ma chanteuse préférée. J'en ai d'autres que j'aime beaucoup aussi, mais celle-ci, c'est ma préférée.